Bonjour. Et si on faisait un petit voyage ensemble? Une découverte de l'huile d'olive, des olives, de l'olivier, de leur origine à leur utilisation, de la symbolique à la cuisine, un vaste programme pour un beau road trip. Alors, prêt?
Chut! On vous dit tout dans ce podcast.
Gloop, le podcast qui met de l'huile d'olive dans vos épinards.
Bonjour à toutes et à tous.
Bonjour.
Bonjour. Alors nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode. En plus, c'est le dernier de la saison, hein. Donc voilà, il y a une pointe de nostalgie déjà, mais ne vous inquiétez pas, on foisonne d'idées pour la suite de nos aventures. Donc d'ailleurs, si vous voulez nous soutenir et nous encourager, connaître l'actualité du podcast, c'est très simple. Il vous suffit d'inclure Gloop dans vos favoris sur votre plateforme d'écoute. Et puis vous pouvez aussi nous suivre sur le compte Instagram Gloop Podcast. Alors aujourd'hui, on vous propose de partir ensemble en voyage. Alors l'olivier, il s'y prête tellement bien. Avec lui, on peut faire le tour de la Méditerranée, se balader vers des contrées plus exotiques, voire même carrément jusqu'au bout du monde. Alors ensemble, on vous propose de partir en balade et de visiter avec nous quelques-uns des pays oléicoles les plus emblématiques. L'Espagne, l'Italie, la Grèce, la Tunisie pour les plus classiques, mais aussi la Californie, l'Argentine pour les nouveaux ou originaux.
Alors si on commençait notre voyage au pays de l'olivier en Méditerranée, le bassin méditerranéen, c'est le berceau de l'olivier. Il reste aujourd'hui le lieu principal de la production d'huile d'olive et d'olives. Grosso modo, 98% du verger se trouve autour de la Méditerranée. Il faut dire que le climat s'y prête particulièrement bien. Plusieurs pays dessinent le pourtour méditerranéen, alors d'après vous, quel est le pays le plus emblématique de la culture de l'olivier sur ce territoire ?
Alors, vu son importance dans la production d'huile d'olive, je dirais l'Espagne. La culture de l'olivier y remonte à des millénaires. On l'a déjà vu peut-être dans d'autres épisodes si vous avez suivi. Les Romains ont perpétué cette histoire en étendant la culture de l'olivier aux régions aujourd'hui connues sous le nom d'Andalousie, donc bien au sud de l'Espagne, et de l'Estrémadure. L'Espagne, c'est finalement une mosaïque de collines ondoyantes, de vastes plaines qui s'étendent sous un soleil très généreux. C'est ici que les oliviers ont trouvé leur terre de prédilection, créant un tableau vivant de nuances vert-argentées qui dansent au gré du vent chaud méditerranéen. Ça vous donne envie de partir, non? C'est aussi une terre de démesure avec des oliveraies à perte de vue, notamment en Andalousie. Aujourd'hui, il faut savoir que l'Espagne produit plus de 40% de l'huile d'olive mondiale. Son potentiel de production est estimé à près de 1,4 million de tonnes d'huile d'olive par an. Cette production, elle repose sur trois variétés principales, très productives, que vous connaissez peut-être. Ce sont la picuale, la variété dominante. Après, on a l'arbequina ou l'arbequine et la oriblanca. Bien sûr, on trouve d'autres variétés en Espagne, mais celles-ci sont plus locales et nettement minoritaires.
Et à quoi ressemblent les paysages oléicoles en Espagne ?
Alors, il faut savoir que les zones où l'olivier est cultivé en Espagne sont nombreuses. On retrouve des vergers d'oliviers dans 13 des 17 communautés autonomes d'Espagne. C'est l'équivalent de nos régions en France. Mais cependant, cette culture se concentre dans la moitié sud de la péninsule. 84% de la surface oléicole totale se trouve en Andalousie, donc vraiment au sud du pays. 6% en Castille-La Manche. 4% en Estrémadure et 2% en Catalogne. En résumé, 96% de toutes les huiles d'olive produites en Espagne poussent dans 4 régions. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'olivier est partout en Espagne. On peut parler de paysages oléicoles au pluriel, principalement en plaine ou sur des collines. En Andalousie, les oliveraies s'étendent à perte de vue. Elles sont souvent situées sur des collines ondulantes, avec donc des paysages avec une apparence vallonnée. Les collines sont souvent couvertes de rangées d'oliviers qui suivent les courbes du terrain.
Ce qui m'a marqué, moi, quand je suis allée à Jaén, donc en Espagne, c'est vraiment le cœur de la production, hein, c'est la capitale de l'olivier en Espagne. C'est la présence unique et sans concurrence de l'olivier. En fait, c'est vraiment des champs, mais immenses, où il n'y a que des oliviers. Il n'y a ni champ d'herbe, ni haie, ni même un arbre autre oublié, un palmier. Enfin voilà, il fait chaud là-bas. On pourrait se dire, bah, il pourrait y avoir quelques palmiers. Non, non. En fait, il n'y a que des oliviers. Il est omniprésent. Et on a l'impression, en fait, d'être au milieu de l'océan, d'une mer d'oliviers. Moi, à des moments, j'ai même trouvé ça un petit peu angoissant, tellement c'était des oliviers à perte de vue. C'est vraiment un paysage impressionnant. Alors, comme dans de nombreux pays méditerranéens où la culture de l'olivier remonte à l'Antiquité, de nombreux vergers espagnols accueillent des oliviers souvent très anciens. Il y en a certains qui ont plusieurs centaines d'années. Donc, on a des champs avec des arbres à l'apparence noueuse, tordue. On a l'impression, en fait, de balader au milieu de sculptures, en fait, presque. C'est des monuments naturels. Par contre, on peut aussi regretter qu'aujourd'hui, ces témoins de l'histoire soient souvent arrachés au profit de plantations plus modernes. Alors, ils sont arrachés pas pour en faire du petit bois, on les retrouve souvent dans nos jardins et nos ronds-points européens. Mais voilà, je trouve qu'on les déracine et on enlève une partie du patrimoine quand même.
Parce que finalement, en Espagne, l'olivier, c'est pas seulement un arbre, c'est vraiment un véritable pilier économique. C'est le premier pays producteur mondial d'huile d'olive et au-delà du simple ingrédient culinaire, l'huile d'olive, ça incarne totalement la manière de vivre espagnole, une tradition bien ancrée dans cette culture-là.
Ah oui, déjà la cuisine espagnole, c'est de l'huile d'olive. Moi, j'ai testé, quand j'ai visité Saragosse, le petit déjeuner à l'hôtel, c'était des tartines de pain avec de l'huile d'olive, éventuellement frottée d'un peu de tomate. Donc voilà, dès le matin, on est baigné dans l'huile, quoi.
Et si on se dirigeait maintenant vers l'autre grand pays de l'olivier, l'Italie, est-ce que les paysages oléicoles italiens ressemblent à ceux de l'Espagne ou est-ce que c'est totalement différent ?
Alors finalement, comme l'Espagne, c'est un peu le foyer de l'olivier depuis de nombreux siècles. Mais géographiquement, déjà, ces deux pays sont très différents. L'Italie, elle s'étend sur une grande longueur et elle possède une grande diversité de climats et de sols. L'agriculture italienne est assez diversifiée, un peu à l'image de l'agriculture française, où finalement, sur une exploitation, il y a souvent plusieurs cultures. Ça peut être la vigne, les arbres fruitiers et puis donc les oliviers. Par contre, contrairement à l'Espagne, où là, les régions sont très sectorisées, chacune a finalement un peu sa spécialité. Donc on va retrouver l'olivier surtout en Andalousie et puis les agrumes, ça sera plutôt une autre région. Les paysages oléicoles italiens sont donc très différents de l'Espagne.
Ouais, l'Italie, moi je dirais que c'est une terre d'élégance, de passion. On a vraiment une grande diversité. On a les collines de la Toscane, les vergers en terrasse dépouille, les vues panoramiques de la côte amalfitaine sont autant de toiles de fond pour les oliviers majestueux qui peuplent le paysage. Parce que là aussi, on a beaucoup d'oliviers pluricentenaires. Alors sur la partie toscane, parce que c'est quand même une des régions emblématiques, en tout cas pour nous Français peut-être, les oliviers sont situés sur des collines et ça offre un terrain bien drainé, une exposition optimale au soleil. Et ces collines, elles sont souvent parsemées de murets en pierre sèche qui délimitent les parcelles, évitent l'érosion et qui se marient aussi avec les vignes. Donc sur la Toscane, on a vraiment beaucoup le mariage vigne-olivier. Et moi, j'ai un souvenir particulier de la Toscane, quand je l'ai visité. J'ai visité le village de Vinci. C'est un petit village que l'on atteint après avoir pris une route un peu escarpée, assez étroite, déjà au milieu des oliviers. Et c'est le village de naissance de Léonard de Vinci. Donc c'est pour ça qu'on est allé le visiter, parce qu'on peut visiter la maison où il a grandi. Voilà. Donc c'est une assez belle bâtisse, très simple, mais une belle bâtisse en pierre. Et elle est au milieu de magnifiques oliviers, certainement pluricentenaires. Et quand je suis arrivée, moi, devant ce bâtiment, je me rappelle avoir pensé que ces oliviers avaient certainement côtoyé Léonard de Vinci. Voilà, donc déjà, il y a un aspect effectivement historique. Et je me suis même imaginé un Léonard de Vinci enfant qui grimpait à ses oliviers, quoi. Voilà, donc il y a vraiment un aspect aussi historique. On peut sentir toute l'histoire qui a traversé et on se dit qu'eux, ils sont restés, quoi. Voilà, les oliviers. Ouais, ils sont témoins, mais muets. Alors pour d'autres régions, donc en Ombrie, en Ligurie, là on a des oliviers qui sont souvent sur des terrains un peu plus escarpés. Là les murets en pierre aussi ont toute leur importance. Par exemple, si on prend le sud de la Ligurie, les Cinq Terres, les Cinque Terre, c'est une petite région qui est absolument magnifique, qui est fabuleuse pour la randonnée et où se côtoient plusieurs cultures. Hein. On a des vignes, on a des agrumes et puis on a des oliviers. Et puis chacun a sa ou ses terrasses. Et donc, c'est un paysage qui est très, très escarpé. Donc, vous vous baladez en haut des collines, enfin des collines, des petites montagnes, au milieu des oliviers, des vignes et des agrumes. Et vous avez la mer en contrebas. C'est absolument magnifique. Moi, je conseille. Hein. Voilà. Alors, autre région emblématique de la culture oléicole en Italie, c'est pas des moindres, hein, c'est une des principales, c'est les Pouilles. Donc là, on va au sud. Voilà, vraiment, là, vous avez le soleil qui tape. On sent la chaleur. Donc, c'est une des plus grandes régions de production italienne. Là, on a des étendues d'oliviers séculaires, hein, voilà, qui sont énormes, qui sont souvent plantées dans des champs ouverts et plats. Donc là, on n'a plus de collines. On a des champs plats. Mais on a vraiment des oliviers énormes et c'est encore un autre paysage qui s'offre à nous.
Alors, bon, on a vu les paysages, Alexandra nous en a parlé. Et si on s'intéresse maintenant aux variétés, comme dans la plupart des pays où l'oléiculture remonte à l'Antiquité, il y a plein de variétés différentes en fonction des régions. Alors, on va avoir le Frantoio et la Lecchino qui sont répandus en Toscane plutôt. La Coratina qui est une variété d'olivier originaire des Pouilles, donc plutôt dans le sud de l'Italie. La Biancolilla, elle, qui est une variété d'olivier originaire de Sicile. En Ligurie, dans le nord-ouest de l'Italie, on va retrouver la Taggiasca, une petite olive assez délicate. Et en Calabre, dans le sud de l'Italie, la variété emblématique va s'appeler la Carolea. Alors, il existe de nombreuses autres variétés d'oliviers en Italie. Chacun va avoir ses propres caractéristiques gustatives et sa propre région de prédilection. Puis, il faut rappeler que les différentes variétés d'oliviers peuvent varier considérablement d'une région à l'autre en fonction du climat, du sol et des traditions locales.
Ouais, c'est une histoire multimillénaire, hein, la sélection variétale. Chaque variété, voilà, c'est adapté à sa
terroir.
Région, quoi, à son terroir.
Alexandra a parlé des Pouilles tout à l'heure. Ce n'est pas dans cette région que de nombreux oliviers sont morts de maladies ?
Alors, effectivement, il y a quelques années, il y a eu une épidémie qui a commencé dans les Pouilles, hein, qui est due, en fait, à une bactérie, Xylella fastidiosa. C'est une bactérie qui est transmise par un insecte et qui fait dépérir les végétaux. Donc, l'olivier dans les Pouilles a été touché, hein, mais c'est une bactérie qui touche d'autres végétaux. Elle peut toucher les agrumes, elle peut toucher les vignes, et puis elle peut toucher aussi des végétaux de la garrigue. Il y a des mesures drastiques qui ont été prises, hein, dans les Pouilles, hein, pour circonscrire le problème. La vigilance perdure, hein, encore aujourd'hui au niveau européen, au niveau de tous les pays européens, notamment les pays oléicoles. Donc voilà, on est vigilant. Après, ça a un impact sur l'arbre, par contre, pas sur l'huile d'olive ni sur la qualité de l'huile, quoi. Par contre, voilà, malheureusement, on a perdu des oliviers pluricentenaires. Quand je disais mesures drastiques, hein, c'est qu'on a carrément arraché les oliviers pour nettoyer les terrains, pour éviter que la bactérie se propage. Donc, effectivement, ça a eu un impact, hein, sur les paysages dans les Pouilles. Il y a des endroits où il y a des gros trous au milieu du paysage parce que non seulement on a arraché les oliviers qui dépérissaient, mais on a arraché un périmètre autour pour s'assurer que ça ne se répande pas, quoi.
D'accord. Alors, jusqu'à maintenant, nous nous sommes baladés en Espagne et en Italie, mais il me semble qu'il y a d'autres pays emblématiques de la culture de l'olivier, comme par exemple la Grèce ou le Portugal. Que pouvez-vous nous en dire ?
Alors là, ce sont deux pays vraiment très différents. Alors, d'un côté, on a l'un des berceaux de la culture de l'olivier, hein, pays dans lequel l'olivier se mélange à l'histoire. Je précise que c'est la Grèce dont je parle. Là, si vous allez vous balader du côté de Delphes, d'Olympie ou même d'Athènes, les oliviers ne sont jamais loin des monuments historiques, hein. Le plus connu est sans doute celui de l'Acropole. Donc là, je vous invite à écouter notre podcast sur l'histoire de l'olivier, parce que puisqu'on en parle un petit peu de cet olivier. Et puis les sites archéologiques, je citerai par exemple Knossos, Mycène ou Thèbes, foisonnent de preuves du rôle essentiel qu'a joué l'huile d'olive dans la vie et dans les coutumes de la Grèce antique. Donc c'est vraiment un pays chargé d'histoire et où l'olivier est vraiment implanté dans cette histoire. Donc en Grèce, la culture de l'olivier, elle se fait principalement dans trois régions, le Péloponnèse, la Crète et les îles Ioniennes, qui représentent à toutes les trois 80% de la production du pays. Alors c'est que des noms qui nous donnent envie d'aller nous balader. Alors, comme disait Émilie tout à l'heure, c'est vrai que dans tous les pays où l'oliculture remonte à l'Antiquité, en Grèce, on retrouve plein de variétés différentes, puisqu'effectivement, la culture, elle s'est développée sur plusieurs millénaires. Donc, je dirais que la plus répandue, c'est la principale variété, peut-être la plus connue, c'est la Koronaïki, qui représente quand même 60% de la production nationale. C'est une variété qui est originaire de la région de Mécénie dans le sud-ouest du Péloponnèse et elle est cultivée aujourd'hui dans plusieurs régions grecques, notamment en Crète où elle représente 80% du verger. Et puis cette variété, elle s'est aussi exportée dans de nombreux pays en Europe mais aussi au-delà de l'Europe parce que c'est une variété qui se prête à la culture en haute densité. Je vais parler 30 secondes de goût. C'est une variété où il y a vraiment une flagrance de l'impact du terroir sur le goût de l'huile d'olive. Parce que moi, j'en ai goûté plusieurs d'huile d'olive de Koronaïki, de terroirs différents. Et à chaque fois, en fait, on m'aurait piégée parce que je pensais pas que ce soit de la Koronaïki. En fonction du terroir, il y a vraiment des goûts très différents. Autre variété emblématique de la Grèce, c'est la Kalamata. Donc, qui est originaire de Mécénie, pareil comme la Koronaïki du sud-ouest du Péloponnèse. Et c'est une variété qui est principalement connue pour ses olives. Voilà, l'olive de Kalamata, je suis sûre que vous en avez déjà goûté. Après, on peut citer d'autres variétés moins répandues. La Mastoïdis, par exemple, qui peut être cultivée jusqu'à 1000 mètres d'altitude, ou encore l'Atinolia qui est cultivée autour d'Athènes, ou l'Amphissa dans la région de Delphes. Alors, les paysages grecs sont vraiment très variés. Les oliviers sont souvent situés dans des régions côtières où il y a un climat vraiment méditerranéen chaud et sec, idéal pour la culture de l'olivier et qui offre aussi de magnifiques paysages parce qu'on a effectivement les oliviers et la mer en fond. Donc voilà, on a terre et mer qui se marient super bien.
Et d'un autre côté, tu as le Portugal qui se situe entre Méditerranée et Atlantique, où les paysages sont vraiment très variés. Il y a cinq grandes régions oléicoles. Alors, Traços Montes, qui se situe au nord-est du pays, à la limite avec l'Espagne. Beira Litoral et Beira Intérieur. Pardon pour la prononciation, j'espère qu'il n'y a pas de Portugais qui nous écoute. Il y a aussi la région oléicole de Riatero et Osté. Et puis la dernière est l'Alentero, plus au sud. C'est justement cette dernière région, donc l'Alentero, qui fournit environ la moitié de l'huile et des olives du pays. Et la deuxième région oléicole, c'est celle de Traços Montes, qui produit environ 25% de la production d'huile et 25% de la production d'olives de table. De nombreuses variétés sont présentes au Portugal. Elles ont chacune une région de prédilection, vous commencez à le savoir, ça dépend des terroirs. Cependant, si on doit citer les principales, on va parler de la Galega, qui représente à peu près 80% des vergers portugais, la Cobrançosa, que l'on va retrouver plutôt au nord du pays, et la Cordoville, qui sera plutôt dans l'Alentero, qui est un petit peu plus au sud du pays. Dans le nord, les oliviers sont souvent cultivés dans des vallées et des collines où le climat est plus frais et humide que dans le sud. Les oliviers sont là-bas cultivés plutôt en terrasse, avec des jolis petits murets en pierre sèche, vous savez, la carte postale un peu. Dans le centre du Portugal, les oliviers sont situés dans les zones plus plates et plus sèches. Et puis si on parle du sud, les oliviers là sont plutôt dans des zones montagneuses et escarpées. Il fait plus chaud dans cette partie-là, donc elles apprécient alors plus l'altitude. Et comme au nord, on va retrouver des terrasses et des petits murs en pierre sèche.
Il faut savoir qu'à côté des grands pays producteurs européens, d'autres pays oléicoles font figure de petits poussés. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ?
Bien sûr, Charline. Alors, soyons un peu chauvines, hein. On va commencer par la France. Moi, j'adore me balader dans le sud de la France. Hein. La diversité des paysages y est incroyable. Que vous alliez dans le Gard, dans les Alpes de Haute-Provence, dans les Alpes-Maritimes, la Drôme ou l'Aude, on a vraiment des paysages très différents. Mais il y a quelque chose, il y a peut-être une ligne conductrice à tous ces paysages, c'est que c'est la diversité, en fait. On a les vignes, les arbres fruitiers, comme les abricotiers, les cerisiers, les pêchers. On a la garrigue et l'olivier, il s'intègre là de manière hyper naturelle au milieu de ces paysages. Il apporte une touche colorée tout au long de l'année, parce que c'est hyper pas ses feuilles, donc c'est vrai que ça contribue à la beauté des paysages. Et on s'aperçoit aussi dans pas mal de régions justement du sud, que notamment par exemple dans le Lyonnais, dans les Alpes, dans le Var ou dans les Alpes-Maritimes, que les paysages ont été marqués par l'histoire, hein, et notamment les paysages oléicoles. Je parlais, alors c'est une histoire un peu récente, hein, mais le gel de 1956, il a décimé à peu près la moitié du verger oléicole. Il y a de nombreux oliviers qui étaient gelés, qu'on a arrachés après 1956. Et on en garde aujourd'hui les traces, parce qu'en fait, dans les endroits que j'ai cités, on voit souvent les vergers oléicoles qui sont à flanc de colline. Voilà, c'est la dernière culture avant la garrigue ou la forêt. Et pourquoi ces vergers, je dis qu'ils marquent l'histoire? Parce que tout simplement, en fait, on les a recépés à l'époque. On a coupé en bas, on les a laissés repousser, parce qu'en fait, de toute façon, on ne pouvait rien planter d'autre. Et en fait, là où on a arraché les oliviers, on a planté d'autres cultures. Et aujourd'hui, on a encore les traces de cette histoire aujourd'hui. Et bon, après, c'est un atout pour l'olivier, parce que franchement, le flanc de colline, ça lui donne un bel écrin quand même.
Alors, un autre petit pays producteur, c'est la Slovénie. Vous ne le saviez peut-être pas, mais l'olivier y est présent depuis l'Antiquité et l'oléiculture, c'est une pratique qui est relativement récente là-bas, mais en croissance rapide. La plupart des oliviers slovènes se trouvent dans la région côtière de l'Istrie, où le climat est plutôt chaud et sec et où les sols sont calcaires. Les variétés les plus courantes sont la Lecchino, la Frantoio et la Pandolino, qui sont initialement originaires d'Italie, toutes proches. Et les oliviers sont souvent cultivés sur des terrasses.
Alors à Chypre, l'oléiculture est une pratique ancienne et importante, hein, avec une longue histoire remontant à plusieurs milliers d'années. Aujourd'hui, l'île compte plus de 10 millions d'oliviers cultivés. Et la plupart de ces oliviers sont situés dans les régions montagneuses de Troodos et de Paphos. Donc, désolé aux Chypriotes si je prononce mal, hein, voilà. Donc, dans ces régions, on a un climat qui est plus frais et plus humide que dans les plaines côtières. Et on va y cultiver principalement trois variétés, la Colossi, la Ladolia et la Kypriaki.
La beauté de tous ces paysages oléicoles participe fortement à l'attractivité touristique. Donc j'imagine que l'olivier a une importance paysagère particulière dans les pays européens.
Alors oui, c'est vrai, l'olivier contribue à la beauté des paysages des pays que l'on a cités. Il est implanté depuis si longtemps finalement qu'il a façonné une partie de ces paysages et il fait partie de l'histoire de ces pays. C'est finalement un patrimoine naturel. Et puis par ailleurs, le fait qu'il renouvelle son feuillage que tous les 3 ans, comme Alexandra l'a déjà dit tout à l'heure, il perd jamais la totalité de ses feuilles, donc ça contribue à la beauté des paysages tout au long de l'année. On ne pourrait finalement pas imaginer de paysage méditerranéen sans olivier.
Et l'olivier a-t-il une fonction environnementale ?
Alors oui, c'est une barrière anti-incendie, on va dire, dans des pays où les feux de forêt sont particulièrement problématiques, on le sait. L'olivier, c'est souvent la dernière culture avant la forêt ou la garrigue et il permet d'avoir une zone tampon qui arrête au moins ou au moins freine une partie des incendies qui se retrouvent sur des sols qui sont cultivés, entretenus et donc moins inflammables.
Oui, puis les oliviers, ils aident aussi à prévenir l'érosion des sols et à maintenir la biodiversité. Hein. Les oliviers sont souvent cultivés de manière traditionnelle en utilisant des méthodes de culture durables et respectueuses de l'environnement. C'est assez courant de trouver effectivement des oliviers où on a des cultures intercalaires, par exemple, où on a des haies. Donc, il y a vraiment voilà, une biodiversité. Et puis, il y a aussi la biodiversité naturelle de l'olivier. On parle toujours des multiples variétés. Ça contribue aussi à la richesse environnementale des pays méditerranéens et des pays oléicoles en général.
C'est fou de voir à quel point l'olivier a un rôle à jouer sur tous les plans. Et si on voyageait un petit peu plus loin, quel pays oléicole aimeriez-vous visiter ou faire visiter ?
Alors, dans les autres pays classiques du monde oléicole, on peut parler de la Tunisie, qui est l'un des principaux producteurs du Maghreb. Alors, c'est un pays aux multiples terroirs. Ça varie entre bord de mer et désert, ce qui fait que finalement les oliveraies du nord au sud vont être assez différentes. Au nord, on va avoir des oliveraies situées plutôt dans les collines et les montagnes, où le climat est plus frais et plus humide. Au centre, les oliveraies se trouvent dans des zones plus plates, plus sèches. Et puis au sud, elles se trouvent là plutôt dans les montagnes, avec un relief plus escarpé, où le climat est chaud et sec. On y cultive principalement la chemlali, au nord et au sud, et puis au centre du pays, ça sera la variété Chetoui. On va avoir de nombreuses oliveraies plantées avec de grandes distances entre les arbres, ce qui change un peu des fois d'autres pays. C'est pour permettre de bénéficier au maximum de la faible pluviométrie du pays et pallier les inconvénients de ces zones finalement quasi désertiques.
On peut rajouter qu'il y a aussi beaucoup d'oliviers pluricentenaires hein, en Tunisie. En plus, il y a des variétés tunisiennes qui ont tendance à faire des gros arbres. Voilà, donc il y a de très beaux paysages aussi, de paysages oléicoles en Tunisie, avec parfois quelques oliviers à perte de vue aussi quand même. Parce que moi, la région que j'ai visitée, c'était très plat. Et effectivement, voilà, il y a des oliviers, des petits murets. Mais il y a quand même quelques palmiers, quelques caoutchoucs aussi.
Et après, si on veut faire encore plus exotique, on peut aussi traverser l'Atlantique, n'est-ce pas Alexandra ?
Oui, on peut partir un petit peu plus loin. Outre-Atlantique, je dirais que le dénominateur commun de tous les pays d'Amérique qui ont des oliviers, c'est d'avoir une diversité variétale bien moindre que dans les pays européens. Tout simplement parce que l'oléiculture date de beaucoup moins longtemps, hein, 300-400 ans. Et effectivement, on va trouver principalement des variétés européennes et celles notamment qui se prêtent à une oléiculture intensive. Alors, si on prend le cas de l'Argentine, qui est un des principaux pays producteurs d'Amérique, hein, les principales zones de production d'olives se trouvent dans les provinces situées au pied des Andes, notamment Mendoza, San Juan et La Rioja. L'olivier s'intègre dans une agriculture irriguée, avec la vigne et les arbres fruitiers. C'est une agriculture quand même assez diversifiée avec toujours les traditionnels vignes et arbres fruitiers. Hein, voilà, on y revient depuis le début quand même. Alors, parmi les variétés couramment plantées en Argentine, vous allez entendre des noms que vous avez déjà entendus, qu'on vous a déjà cités. L'arbequina, la manzanilla, la frontoyo. Donc, c'est des variétés européennes qui s'acclimatent assez facilement aux conditions géologiques et climatiques de différentes régions, et notamment en Argentine, elles se sont très bien acclimatées. Et puis, on trouve aussi l'arroco. Du nom d'un département de la province de La Rioja. C'est une variété qui a probablement été obtenue par sélection de plants issus de semis introduits en Argentine par les Espagnols. C'est vrai qu'il faut rappeler que l'oléiculture argentine, si elle s'est développée très récemment, en fait, elle a commencé il y a quand même plusieurs siècles. Elle remonte à la colonisation espagnole et à la plantation des premières oliviers, justement, à Arauco, donc dans la province de La Rioja. Il y a même un spécimen vieux de 400 ans, un olivier de 400 ans qui témoigne justement de l'introduction de cette culture à cette période-là.
Alors maintenant, remontons un peu plus sur le continent américain et parlons des États-Unis. L'olivier y est cultivé depuis le XVIIIe siècle, mais le véritable essor de l'oléiculture dans cette région du monde, elle est un peu plus récente, elle date du XXe siècle. C'est une période au cours de laquelle la consommation d'olives s'est nettement développée. On peut noter que 95% du verger américain se concentre à l'ouest du pays, en Californie plus précisément. On citera notamment la Napa Valley qui se situe au nord de San Francisco et également une autre zone que l'on appelle la Vallée Centrale, notamment près des villes de Stockton et au nord de Sacramento. Les conditions climatiques sont plutôt méditerranéennes et elles sont donc idéales pour la culture de l'olivier. On l'a dit, en Europe, on retrouve à certains endroits des cultures de vignes et d'oliviers. Ben en fait, il en est de même pour la Napa Valley. Vignes et oliviers s'étendent sur des collines et dans les vallées. Cela donne de magnifiques paysages avec la rivière Napa et de nombreux autres cours d'eau qui se situent également dans cette région. Avec les chênes et les cyprès, eux aussi présents, on se croirait presque en Toscane ou dans le sud de la France. Hormis les régions que je viens de citer, on retrouve quelques oliveraies dans d'autres états comme l'Oregon, l'état de Washington, l'Arizona ou le Texas. Mais dans ces états-là, les conditions climatiques limitent l'expansion de l'olivier. Plus de la moitié du verger américain est composée d'une variété locale qui a été obtenue à partir du XVIIIe siècle par les missionnaires franciscains et qui ont choisi de l'appeler la variété Mission. Depuis, d'autres variétés ont été introduites, comme la Manzanilla ou le Sevillano, qui sont originaires d'Espagne, ou encore la variété Ascolana, qui vient, elle, d'Italie. On peut considérer que l'oléiculture américaine est plutôt moderne, avec des densités d'arbres à l'hectare assez élevées et une majorité de vergers irrigués.
Encore une fois, on a beaucoup trop de choses à dire. On n'a même pas parlé du Maroc, de l'Égypte, de l'Australie ou encore de la Chine. En tout cas, on aura bien voyagé pendant cet épisode et ça donne vraiment envie de découvrir toutes les régions dont vous nous avez parlé. Et j'imagine que si on parlait en plus de la gastronomie de ces différentes contrées, on aurait déjà réservé nos vacances. Alors encore merci pour ce moment qui nous permet de nous échapper de la grisaille hivernale. Ah, je crois que c'est encore l'heure de mettre de l'huile d'olive dans vos épinards. Vous avez encore envie de goûter les huiles d'olive aux notes aromatiques différentes ? Comme dans chaque épisode, on vous donne la possibilité de remporter un coffret avec une sélection d'huile d'olive en répondant tout simplement à la question que va vous poser Émilie.
Alors, si vous avez bien écouté l'épisode, ce sera une simple formalité, comme à chaque fois. Quelles sont les principales variétés implantées en Californie, en Italie et en Espagne ? Donnez-nous au moins trois noms parmi celles qu'on a évoquées pendant l'épisode.
Vous connaissez la réponse à notre question ? Participez vite, c'est super simple.
Alors rendez-vous sur notre compte Instagram Gloop Podcast. Suivez notre compte, likez notre post épisode 6 et taguez dans ce même post deux amis à vous qui adorent la cuisine et l'huile d'olive.
Le tirage au sort aura lieu le 22 avril, alors restez connectés pour en savoir plus. Notre grand jeu concours touche à sa fin, c'est donc votre dernière chance d'y participer. En répondant à la question, vous serez inscrit automatiquement au tirage au sort de fin de saison. Vous tenterez donc de gagner un séjour pour deux personnes en plein cœur des Alpilles.
Merci Émilie et Charline. Alors, parler de tous ces pays m'a franchement mis l'eau à la bouche et donné envie de voyager. Et avant de terminer, j'aimerais bien vous donner un petit conseil parce que effectivement, on a beaucoup parlé de paysages, on a parlé un petit peu de tourisme. Et si cet épisode vous a donné envie de visiter l'un ou l'autre des pays dont on a parlé, je vous conseille fortement d'être curieux et puis de pousser la porte un petit peu des moulins et des domaines. Le tourisme se développe beaucoup dans les pays oléicoles, donc c'est de l'agritourisme et ça vous permet effectivement de découvrir cette culture sous un autre angle. Et puis il y a de nombreux domaines et moulins qui proposent des dégustations, des ateliers, etc. Donc n'hésitez pas effectivement à être curieux quand vous allez dans ces pays. Alors j'espère qu'on vous a donné envie de partir en voyage ou en tout cas qu'on vous a fait voyager dans votre tête et ça ce serait déjà super. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à meuter de l'huile d'olive dans les épinards de votre entourage aussi et parler de notre podcast à votre papa, à votre maman, à votre frère, à votre sœur, à vos potes, à vos voisins, à vos collègues, à votre boulanger, à votre boucher ou à votre prof de yoga. Parler de Gloop autour de vous et puis laissez 5 étoiles aussi et puis suivez nos actus et les coulisses du podcast sur notre compte Instagram. Merci encore d'avoir suivi cet épisode. On vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle saison de Gloop. Donc soyez attentifs et puis n'oubliez pas,
Gloop, c'est le podcast qui met de l'huile d'olive dans vos épinards.
Ce podcast est imaginé et créé par France Olive, l'interprofession des huiles et des olives de France, avec la participation du Copexo, comité pour l'expansion de l'huile d'olive. À très bientôt avec Gloop, le podcast qui met de l'huile d'olive dans vos épinards.